Dévoration.
En public depuis la 13e édition de Terroir 13 au Conseil Général 13, autour de quelques trésors du terroir, je suis très honoré d'introduire avec ce plateau radio la thématique antenne Dévoration, une thématique qui se repaît et se répétera des ondes de la grenouille jusqu'à mardi 9 juin. Grands entretiens avec des chefs, plateaux, mix, chroniques. Vous pouvez réécouter l'ensemble des émissions et découvrir les rendez-vous de cette programmation au menu à la carte sur le site de Grenouille, www.grenouille888.org. En direct de Terroir 13, donc, manifestation qui transforme le Conseil Général en ferme géante. Image saisissante qui évoque tour à tour la Provence éternelle de Jean Giono ou bien la ferme des animaux de George Orwell. Tous les goûts sont dans la nature ce week-end à l'hôtel du département pour ce grand inventaire des saveurs bucco-rhodaniennes. À 15h passées de quelques minutes, il est un peu tard pour vous souhaiter un solide appétit. En revanche, il n'est jamais trop tard pour de plus liquides agapes, autrement dit boire un coup. C'est autour du terroir viticole, des vins de la région et de l'articulation entre le vin et la gastronomie que nous allons cheminer dans cette discussion. En compagnie de Guillaume Félissa, qui représente Tout Rouge. Tout Rouge, c'est un distributeur, mais c'est aussi l'organisateur d'ateliers d'œnologie et de journées de découverte dans les vignes du département. Guillaume Félissa est venu accompagné d'un vigneron, un de ceux sans qui nous n'aurions rien à dire, parce que nous n'aurions rien à boire. J'ai nommé Antoine Poupenot. On l'aura deviné, ces vignes ne sont ni à Bordeaux ni en Bourgogne. C'est tout près d'ici qu'il invente son nectar, qu'on est en train de déguster d'ailleurs en ce moment. Sur ce plateau, on a aussi le plaisir d'accueillir Michaël Zortian, aujourd'hui sommelier au 29 chez Jérôme Enfray, après avoir officié chez Lionel Lévy. Et on parlera évidemment de cuisine et de vin. Et puis enfin, Fred, tout droit sorti de sa cave, qui est aussi un adorable bouchon, pas loin du panier, et ça s'appelle les Buvards. Bonjour à tous, santé et bonheur à la vôtre, à la nôtre. On a d'ailleurs, je vous le disais, quelques bonnes bouteilles autour de nous pour joindre le geste à la parole et l'utile à l'agréable. Alors, terroir, commençons par le commencement. Avant de parler de vinification, de robe ou de nez, on va parler cailloux, cépages et brises de mer. On est ici à Marseille, Guillaume Félissa. Quels sont les terroirs viticoles qui nous entourent, Guillaume?
Les terroirs viticoles, ils sont, sont les AOC qui sont autour de nous en Provence. Bah, tout le monde, je pense, les connaît déjà, donc je ne voudrais pas faire un rappel de la liste des AOC, on les connaît toutes, dans le domaine du vin. Hein.
Quelques-uns parmi les plus notables.
La question, oui, il y en a 9.
René Conti, c'est en Provence ou...
Et oui. En fait, vous me posez la question des terroirs, qu'est-ce que c'est qu'un terroir ou les terroirs
ben on va y venir après, mais là, autour de Marseille, qu'est-ce qu'on a comme vin quoi? Il y a les côtes de Provence,
alors,
il y a le Cassis.
On a, vous savez, les terroirs, une climatologie, des usages loyaux de production, qui sont définis par l'INAO, enfin si l'INAO existe encore, je ne sais pas très bien. Et puis qu'est-ce que j'ai oublié? La géologie. Et puis moi je voudrais, dans ce
le
plateau
climat.
Aujourd'hui, je l'ai dit, le climat, oui. J'aimerais qu'on parle des hommes, parce qu'en fait le terroir c'est aussi des hommes. Alors comme il y en a 4 aujourd'hui, qui sont 4 terroirs marseillais, eh bien, je trouve qu'on devrait tous parler de notre terroir, qui est celui de Fred au Buvard, de Michael au 29 Place aux Huiles, de Antoine qui est avec les comptoirs de Magdala, de moi avec Tout Rouge. Donc, nos terroirs, nous, qu'est-ce qu'on peut proposer à vos auditeurs? Je ne sais pas combien d'auditeurs nous écoutent aujourd'hui, mais moi, je peux leur faire des propositions concrètes aujourd'hui pour comprendre ce que c'est qu'un terroir.
Alors,
venez nous rencontrer, nous parler et boire avec nous. Et comprendre avec nous qu'est-ce qu'on peut, comment on peut rencontrer un terroir?
Voilà. Alors, on récapitule. Alors. Un terroir, c'est un sol, c'est un climat, et c'est avant tout, et Guillaume mettait l'accent là-dessus à l'instant, c'est un environnement humain. Vous êtes d'accord avec ça, peut-être Antoine?
Oui, bah, complètement. C'est sûr que pour nous, en tant que vignerons, on est juste de passage. Le terroir, il est là, il reste là. Donc on se doit de transmettre cette tradition qui était là déjà bien avant nous et d'essayer de la transmettre aussi le mieux possible. Donc le terroir, c'est évidemment un sol, une géologie, un climat, une exposition, un ensoleillement, etc. etc. Mais c'est aussi l'histoire qui était avant nous et celle qu'on écrit aujourd'hui.
Alors à propos d'histoire justement qui était avant nous, on est ici à Marseille, l'endroit presque historique où des phocéens ont débarqué il y a un peu plus de 26 siècles.
Ils ne se sont pas trompés, c'est pas mal comme endroit.
Ils ne se sont pas trompés, c'est pas mal. Hein. Il y a un bon climat, il y a un bon sol, effectivement. Il y a un environnement humain qui est plutôt agréable aussi. Ouais. Et puis on y a importé du vin venant de fossés de la Grèce. En fait, c'est ici qu'a démarré l'histoire du vin en France.
Bah, ouais, de la version que je connais, oui, je crois que c'est d'ici que, en France, en tout cas, on a des anciennes traces, en tout cas, de chais romains à Bandol ou à Cassis ou ailleurs. Mais sinon, il y a une théorie qui dirait que c'est passé par le Maroc, etc. Ça vient par l'Espagne et ça revient par nous. Alors après, bon. Je ne sais pas trop exactement.
Il y a deux trajets,
Fred,
aussi,
sur cette histoire.
La montée Nord-Italie, ouais. Tout ce qui a traversé la Croatie, l'Italie. Et ça, c'est arrivé sur la Bourgogne, sur la Loire. Voilà. Mm. Après, on va retrouver des cépages qui n'ont pas les mêmes noms et qui sont souvent très similaires, en fait. Mais parce qu'ils ont pris deux routes différentes. Et après, la nature a fait qu'ils se sont adaptés à des sols différents, à des climats différents aussi. Mais c'est vrai qu'on va retrouver des fois des similitudes entre des cépages du Nord et des cépages du Sud.
Sur cette histoire du vin dans la région, Guillaume, Michael.
L'histoire du vin, pas forcément, mais en tout cas, il y a des très beaux cépages, en Provence et des très beaux terroirs, notamment à Bandol. On parle souvent des rosés qui sont les plus fameux de France, mais en vin rouge, on n'a plus à rougir par rapport à le Languedoc-Roussillon, à la vallée du Rhône. Et ça fait 10 ans qu'il y a vraiment beaucoup de bons vignerons. Et nous, au 29, et dans les restaurants que je côtoie, on essaie de développer ces vins-là parce que. Enfin, ils n'ont pas à rougir par rapport au Languedoc, en tout cas. Voilà.
Alors, le vin de Provence n'a pas à rougir, bien qu'on l'ait longtemps associé plutôt à du rosé ou plutôt à du blanc. Il y a aussi des rouges qui sont excellents. Je voudrais qu'on revienne quelques instants sur, après avoir parlé du terroir, de l'environnement humain, j'aimerais qu'on parle maintenant de ces cépages. Quels sont les cépages les plus courants ici en Provence?
Sur Bandol, c'est Michael. le Mont Verdre. On dit que le Mont Verdre a besoin d'avoir les pieds dans l'eau, la tête au soleil. À Bandol, c'est parfait. On a beaucoup de rôles pour les cépages blancs. C'est le cépage le plus qualitatif, a priori. Mais après, il y a pas mal de vignerons aussi qui travaillent sur les vins blancs des 20 pays, comme Peter Fischer qui travaille du Chardonnay. Enfin, il y a quand même. Voilà. Bon, après, en blanc, c'est plus difficile. Il y a quand même un peu moins de terroir qui s'apprête au vin blanc et il y a beaucoup de chaleur, donc bon. Mais en vin rouge, voilà, Mourvèdre, on a des grenaches, il y a beaucoup de choses, quoi.
Antoine ?
Oui, il y a.
Qu'est-ce que tu as, toi, dans ton exploitation ?
Donc, comme je suis basé sur l'appellation Bandol, hein, j'ai principalement du Mourvèdre, c'est un peu ma spécialité. J'ai plusieurs cuvées de rouge et dans chacune, j'ai minimum 30 ou 50% de Mourvèdre. Donc c'est le cépage qui s'est bien acclimaté, en tout cas en France, c'est là où on le trouve en plus grande quantité. C'est un peu ce qui fait notre originalité. Et si jamais, je sais pas, n'importe où dans le monde, on va voir un caviste, mettons au fin fond aux États-Unis ou je sais pas où, on lui parle de Mourvèdre, il va citer Bandol. C'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui effectivement très très lié, quoi, le Mourvèdre avec le Bandol. Donc c'est vraiment notre spécialité. C'est un cépage en plus pour les vignerons qui aiment les défis, c'est un cépage qui est pas mal parce que c'est un cépage difficile à conduire à maturité, puis après aussi assez compliqué en termes de vinification et d'élevage pour faire des choses fines, élégantes, etc. Donc c'est, quelque part, quand on aime les défis, c'est assez sympa. Hein, voilà.
Est-ce qu'il est possible d'envisager d'importer ici en Provence des cépages qui viendraient d'ailleurs? Est-ce qu'on voit apparaître de nouveaux cépages ou même de nouvelles créations?
À ma connaissance, pas vraiment. Mais en tout cas, juste pour revenir à ce qu'il disait, en fait, c'est vraiment un cépage de vigneron. Hein. Nous, on a goûté donc, justement son Mourvèdre. Enfin, ça, c'est chapeau à ces vignerons-là qui font des cépages. Non, mais c'est vrai. Parce que c'est facile de faire de la Syrah. Enfin, c'est facile. C'est plus simple de faire de la Syrah, de faire du Grenache. C'est plus flatteur que de travailler sur des... Ça, c'est vraiment des vins de sommelier, quoi, en tout cas.
Tu veux dire qu'il y a des vignes qui sont plus faciles à cultiver que d'autres?
Oui, et en plus qui vont donner des arômes qui sont plus faciles pour les personnes qui ne sont pas forcément des connaisseurs et donc qui vont apprécier plus facilement. Le Mourvèdre, bien vinifié un Mourvèdre, c'est compliqué quand même.
Ça demande une bonne connaissance du terroir. Y a des terroirs qui s'y prêtent, d'autres qui s'y prêtent un peu moins. Et puis aussi, il faut bien maîtriser l'assemblage de tous ces terroirs pour arriver à obtenir un vin élégant, goûtu et aussi qu'on a envie de boire, parce que le Mourvèdre ça peut être aussi assez austère, quoi. Donc sachant que moi j'aime faire des vins pour des buveurs de vin et pas forcément pour se casser les dents dessus, il y a tout ce savoir qu'on a à Bandol. Voilà, quand on parle de terroir, il y a ça aussi, c'est savoir, cette tradition transmise d'assemblage et puis de connaissance des terroirs.
Sur le cépage, encore quelques instants, sur l'évolution de l'encépagement de la Provence, de la région, et sur la tradition, peut-être Guillaume ou Fred. Guillaume.
Faudrait pas qu'il Fred. Bouge trop, quoi, en fait. Parce que c'est vrai qu'on commence, on commence à voir des cépages arriver. Après, je connais pas tous les vignerons de Provence, heureusement pour moi. Après, je pense qu'il y en a qui se trompent un peu, justement, sur l'identité terroir, en amenant des cépages un peu à la mode dans le sud, qui sont des cépages, je sais pas, comme le Viognier, des choses comme ça. C'est des cépages qu'on vous souhaite d'être dans le nord, sur les terroirs de granit, tout ça, qu'on va pas retrouver forcément en Provence. Donc, après, on va retrouver des cépages, voilà, ça va être flatteur, ça va être super sur le fruit, ça va être tout ce qu'on veut. Après, ouais, on peut dire que c'est un peu putassier quand même, Thibaut. Et on va rater, on va passer à côté de l'effet terroir. Et voilà, il y a un encépagement qui était là dès le début. Je pense que c'est bien de le respecter, quoi.
Donc pour toi, il y a une tradition à respecter. Peut-être l'avis de Guillaume.
Au sujet des cépages, je ne sais pas quel est le niveau des auditeurs qui nous écoutent. Un des grands plaisirs de la dégustation et donc de boire du vin, c'est de s'identifier, de reconnaître des vins qu'on boit, les aimer, bien sûr, les accorder avec des mets, mais surtout les reconnaître. Moi-même, bon, récemment, j'étais... On me tend des pièges, on m'a tendu une bouteille de blanc. Regarde pas ce que c'est, qu'est-ce que tu devines. J'hésitais, je sais pas trop, j'ai dit ce que je pensais, je suis tombé bon, alors j'étais bien content.
T'avais bu combien de verres avant aussi?
Non, j'avais pas bu, non.
Une trentaine.
Et en fait, on se fait des images mentales des vins qu'on boit.
Oui, c'est bien ce que je disais, t'étais complètement bourré.
Voilà, j'ai comme d'habitude.
Après le niveau des auditeurs, là, on voit le niveau des participants au débat.
Et donc, les cépages en Provence, on a quelque chose qui est merveilleux dans le sud, c'est qu'on assemble. Alors que dans le nord, si on divise la France en deux, hein, vous coupez la France en deux, au nord, on fait des vins de monocépage et au sud, on fait des assemblages. Donc, dans le sud, la tradition d'assembler, elle est réelle. Et les bandolais le font, puisqu'ils assemblent, je sais pas, 5-6 cépages pour les cuvées de rouge. Idem pour les blancs, les rosés. Donc, dans tout ça, se fait un joyeux mélange. Et c'est vrai que la Syrah, le Mourvèdre, le Cabernet, le Grenache vont donner tout leur style. Alors, on apprend très facilement à les reconnaître. Mais je ne pense pas que les auditeurs, eux, le savent. Mais, ou à moins qu'ils soient déjà un peu œnophiles. Mais on apprend très facilement dans les écoles de dégustation ou sur Internet à reconnaître ou en venant discuter avec Fred au Buvard qui vous fait goûter ces nouvelles cuvées. Qu'est-ce que c'est que le Grenache? Pourquoi on pourrait parler du Grenache? Pourquoi le Mourvèdre? Pourquoi le Syrah?
On va en parler tout à l'heure en fin d'émission sur la relation au consommateur et comment est-ce qu'on peut éduquer son goût. On va rester encore peut-être quelques instants sur le terroir. À l'instant, Guillaume évoquait l'idée que dans le nord de la France, les vins étaient des vins de cépage et que dans le sud, c'était plutôt des vins d'assemblage. Est-ce que c'est vraiment une loi d'airain ou est-ce qu'il y a des exceptions?
Non, il y a quand même des assemblages. Il y a des assemblages dans le nord aussi quand même. Mais bon, après, bon, notamment dans la vallée du Rhône septentrionale, c'est de la Syrah, mais après on mélange
avec
la Marsanne. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais après, bon, ça c'est... c'est bien de parler en
gros. Bandol,
en règle générale, c'est comme ça. Mais bon, on va dire que vous allez dans le Val-de-Loire, vous allez avoir des assemblages aussi dans les vins, pour les vins rouges. Hein, mais bon.
Tout règle, plus... ces exceptions.
Oui, bien sûr. Mais il y a quand même plus.
Bandol avait le droit au 100% Mourvèdre avant. À l'époque, je pense qu'on n'a plus le droit.
Non, d'après ce que je sais du décret qui a été refait il y a pas très longtemps, on peut faire un bandol, on peut revendiquer l'appellation bandol seulement si on a minimum 50% de Mourvèdre et maximum 95% de Mourvèdre. Et donc il faut un deuxième cépage principal qui est ou le Grenache ou le Cinsault. Et si on fait on a un assemblage de 95% de Mourvèdre avec 5% de Carignan, on ne peut pas demander du Bandol, parce que le Carignan est un cépage secondaire. Voilà.
On évoquait tout à l'heure à propos de l'histoire du vin, la très longue histoire ici à Marseille de l'introduction de la vigne et de la vinification. Peut-être on pourrait parler un petit peu du bassin méditerranéen. Comment est-ce que ici la pratique des vignerons est quelque chose qui peut influencer tout autour du bassin méditerranéen la pratique d'autres vignerons? Est-ce qu'il y a des échanges concrètement entre ici des vignerons français, puis des vignerons italiens, peut-être des vignerons qui sont au Maghreb, en Espagne, etc. Est-ce que ce monde méditerranéen, il est en permanence en train d'échanger? Du point de vue du vin.
Je veux bien répondre. Mais moi, j'aimerais bien qu'on oriente le débat sur ce qu'on fait, nous.
Alors d'abord, on répond à ça, puis après, on va orienter.
On a une heure où on peut discuter. Enfin, les Méditerranéens, aujourd'hui, c'est nous. Hein. On travaille dur. Enfin, on aime notre métier. Pourquoi ne pas demander à Michael le programme de sa journée, de ce qu'il fait demain, et qu'est-ce qu'il propose à ses clients? Parce que, en fait, ça va rejoindre. La réponse, elle sera dans la réponse de Michael.
Alors, pour l'instant, Guillaume, si tu veux bien, ma question, c'est de demander d'abord, parce que je pense que cette dimension méditerranéenne, elle est importante. Aujourd'hui, Marseille-Provence 2013 est quelque chose qui s'oriente aussi vers le sud. On voit bien toutes les manifestations culturelles aujourd'hui avoir retrouver ce regard vers le sud. Et j'aimerais bien savoir si la Méditerranée est aujourd'hui un contexte qui est propice aux échanges. Michael.
Aux échanges entre vignerons, pas forcément quand même, parce que c'est un métier qui est très difficile, beaucoup plus que sommelier ou restaurateur, parce que c'est eux qui font le vin. Et ça demande beaucoup de temps. Donc après, d'échanger avec d'autres personnes, je pense pas forcément. Après, je suis pas un grand connaisseur par rapport à ça, mais...
Moi, ça m'est arrivé d'aller travailler en Corse pour aider un vigneron à faire son vin, alors que bon, je suis plutôt originaire de Bandol. Après, je suis allé en Grèce. À chaque fois, c'était des gens qui souhaitaient avoir une approche un peu plus naturelle des vins, et pour faire des vins un peu plus propres. Et donc, effectivement... J'ai vécu des échanges entre vignerons méditerranéens.
Qu'est-ce que tu veux dire exactement par des vins un peu plus propres, moins chaptalisés, moins trafiqués?
Voilà, essayer de...
On chaptalise pas dans le sud non plus.
Ouais, c'est vrai, déjà, on a tellement de soleil, et puis en plus, avec ce changement de climat, on n'a plus tellement besoin de rajouter de sucre. Mais disons que, pour faire, à mon sens, le meilleur vin, c'est le vin déjà qui amène une discussion, un étonnement et évidemment un plaisir. Et ça, on l'obtient si on respecte évidemment le sol, la vie du sol. On parlait de la connaissance des assemblages des terroirs et des cépages. Évidemment, c'est très très important pour amener à avoir une harmonie dans le vin. Et du coup, cette harmonie va amener une émotion. Et pour, à mon sens, pour obtenir tout ça, il faut essayer. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner cette vinification en étant le moins interventionniste possible, c'est-à-dire on peut rajouter du soufre dans le vin comme un élément antiseptique, etc. Moi, je suis pas zéro soufre, mais c'est évident qu'il faut en mettre le moins possible pour que ça donne par exemple moins mal à la tête pour comme ça nos auditeurs ils entendront et comprendront ce que je veux dire, c'est-à-dire que les lendemains difficiles avec des mal de tête sont liés en général à des doses de soufre un peu trop importantes dans le vin.
Merci beaucoup. On va se retrouver tout à l'heure dans quelques minutes pour évoquer justement les méthodes de vinification, ce qu'on peut mettre, ce qu'on ne doit pas mettre, le soufre, les levures, etc. Pour l'instant, on va s'écouter un petit morceau de musique. Pascal Comlade, le barman de Satan. Thank you. bien connu, ça n'était pas Pascal Comelade qu'on écoutait, mais c'était Stefano Bolani, le bar biturique. En deux mots, évidemment. On est en direct du Conseil Général des Bouches-du-Rhône pour cette émission intitulée Vino Veritas, dans le cadre de la thématique dévoration sur les 3-8. On va maintenant, on a parlé du terroir pendant cette première partie d'émission. J'aimerais qu'on parle maintenant du vin, de la manière de fabriquer le vin, de la vinification. On a évoqué tout à l'heure, Antoine en parlait, de la nécessité ou pas de mettre du soufre dans le vin. Peut-être juste rappeler en quelques mots, à quoi ça sert le soufre ? Ça sert à quoi en fait ?
Ça sert à... C'est un antiseptique et c'est aussi un stabilisateur. C'est un antioxydant. Donc ça, on peut l'utiliser à plusieurs moments au cours de la vinification et même dans les vignes, parce que comme c'est ça tue les maladies des vignes, comme l'odium par exemple. Donc on l'utilise en poudre dans les vignes. Après, dans le vin, on peut en mettre au moment de l'encuvage, donc quand on met les raisins dans la cuve. Et là, en mettant une quantité homéopathique, ça permet de sélectionner un petit peu les levures, parce que dans le vignoble, il y a plein de levures, il y a des bonnes et des mauvaises levures. Donc il y en a qui sont sensibles, d'autres qui sont un peu moins sensibles. Voilà. Et ensuite, juste avant la mise en bouteille aussi, on peut essayer d'en mettre un petit peu. Donc l'idée, évidemment, c'est pour faire du bon vin, c'est pas où la solution, elle vient pas du soufre, faut pas essayer de faire du zéro soufre ou plein de soufre, c'est un accompagnement en essayant de faire vivre les sols, en essayant d'obtenir le meilleur raisin possible, et ensuite en essayant de respecter cette matière jusqu'à la mise en bouteille pour essayer de faire en sorte qu'évidemment on aura la plus grande émotion. Donc peu de soufre à dose homéopathique évidemment, et en connaissance un petit peu du millésime. Voilà.
Du point de vue du consommateur, comment est-ce qu'on peut savoir s'il y a ou pas des sulfites dans une bouteille, Fred ?
On ne sait pas. On ne peut pas le savoir. À part quelques barjots qui font du 0-0, donc qui mettent sans sulfite ajouté, parce que de toute façon, du soufre, quoi qu'il arrive, on va en retrouver sur une analyse dans une bouteille.
Ouais. Ou d'autres barjots qui en mettent plein, et ça devient du vitriol, ça perfore l'estomac.
Après, je ne pense pas que le soufre soit la bête noire du truc. Moi, je pense que tout ce qui est levure exogène, donc levure dite chimique, moi, ça me dérange un peu, parce que justement, Antoine, lui, il l'évoque pas, mais parce qu'Antoine travaille ses sols, il y a un vrai boulot sur la vigne. Du coup, disons qu'il a parlé de sélection de levures. Donc, ces sélections de levures, c'est des levures naturelles. On n'a pas besoin de faire de sélection de levures quand on bosse avec de la chimie.
Dans le raisin, où est-ce qu'on la trouve, cette levure ? C'est la peau, c'est la pulpe, c'est le jus ?
Oui, dans le chai, partout. Et puis dans les vignes, il y en a partout. Même sur les caisses à vendange, sur les chemises, il y en a partout. Il y en a sur les peaux, évidemment, des raisins. Mais ça se transmet après, comme on prend les raisins, on les a sur les mains. Après, ça va un peu partout. Donc il y a énormément de levures. C'est une énorme population de levures qu'on ne voit pas, évidemment. L'idée, c'est d'essayer de connaître un peu ces levures, nos propres levures, les levures de notre terroir. Parce qu'évidemment, dans la définition du terroir, on pourrait peut-être inclure aussi la notion de levure indigène. Cette levure-là, sur cette parcelle-là, qui donnera ce goût-là, mais qui ne sera pas tout à fait la même que le versant d'en face, avec pas tout à fait le même vent, pas tout à fait la même hygrométrie, pas exactement. Donc une autre population de levures va se développer là.
Alors, peu de soufre dans le vin, des levures naturelles, ça c'est la définition d'un vin, justement, qu'on appelle vin naturel. On va en reparler un peu plus longuement, évidemment, tout à l'heure, mais peut-être tout de suite pour rester sur cette question des levures. Ces levures qu'on a le droit, semble-t-il, d'ajouter, d'où est-ce qu'elles viennent ? Où est-ce qu'on les trouve ? Et quel est leur rôle ? C'est donner un goût de fruits rouges, un goût de banane, un goût de je sais pas quoi ?
Un goût de ce que vous voulez, mais pas en tout cas un goût de vin, quoi.
Mais par contre, on le sent, après, avec un petit peu de dégustation, on fait rapidement la différence entre ces levures. Quoi. On ne va pas parler des Beaujolais nouveaux, mais il y a d'autres vins qui ont des levures exogènes, et c'est vraiment très ingrat comme goût, comme arôme. Ça sent faux. Quoi. Enfin, je veux dire, quand on goûte, on sent un vin, on goûte un vin, dès que c'est rajouté, on le sent rapidement. Parce que c'est...
Tu veux dire qu'après, c'est un vin qui manque de complexité, qui a un goût et un seul, quoi.
Qui a un goût, ouais, qui a un goût vulgaire, quoi. On sent vraiment que c'est trafiqué, quoi. Après, comment l'expliquer, c'est assez compliqué, mais en le goûtant, en 10 secondes, voilà, quoi, on s'en rend compte, quoi.
Alors, on peut mais évidemment, c'est pas terrible. Ajouter des levures, qu'est-ce qu'on peut aussi ajouter dans le jus de raisin si on fait pas du vin naturel, hein, on est bien d'accord. Quand on veut modifier sa saveur, oh ses oui, arômes, qu'est-ce qu'on peut faire?
La liste est longue, hein, on peut rajouter.
Copeau, hein.
Ça va être long. Là.
Voilà. Donc bon, après.
On va faire le catalogue de Mondo Vino. Là.
Le catalogue de Mondo Vino, sans Mondo Vino, je crois qu'il y a plus de 500 produits oui, à la vente aujourd'hui.
Voilà, et puis dans la liste, il y a bon, évidemment ce qu'on connaît, les tanins qu'on rajoute, les copeaux de bois. Mais sinon, on peut rajouter les acides tartriques pour rééquilibrer le vin, c'est-à-dire des vins qui auraient. Issus de raisins très très mûrs, donc évidemment ils n'ont plus beaucoup d'acidité, tu as des équilibres un petit peu de confiture, donc pour rajouter ça, redonner une sensation de fraîcheur en finale, on rajoute de l'acide tartrique. Mais cet acide tartrique, quand on a l'habitude, comme en tant que sommelier, quand vous avez l'habitude de goûter les vins, vous savez reconnaître une acidité naturelle.
L'acidité naturelle, même si elle est cachée, ça a été beaucoup le cas sur 2003, parce que 2003, il y a des canicules. Aujourd'hui, les vins de 2003... Les acidités ressortent aujourd'hui seulement, en fait. Ouais. C'était complètement camouflé par une grosse matière, un gros fruit et tout ça. Et aujourd'hui, cette fraîcheur, donc on est 9, c'est 5 ans derrière, ça commence à apparaître. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, elle était là de toute façon, mais elle était masquée juste par des fruits un peu trop mûrs.
Et puis après, il y a aussi la notion de minéralité. Ça me fait penser à... Parce que 2003, il y a peu d'acidité si on regarde l'analyse chimique. Mais en fait, il y a une énorme minéralité qui fait que ce vin-là, il reste droit. Et il a une colonne vertébrale. Donc, ça reste droit. Alors qu'effectivement, la canicule, et on a tous le souvenir d'arbres, il faisait tellement chaud que les amandiers sont morts ou des trucs comme ça, et donc ça a été terrible pour la nature, et donc les vins étaient un petit peu mous jusqu'à avant Noël, et effectivement maintenant ils se remettent droit, et ça c'est, il y a une acidité puis une minéralité qui est propre aussi à nos terroirs.
Le vin, c'est un être vivant, il évolue à partir du moment où il est mis en bouteille, il n'arrête pas son évolution, il continue évidemment à bouger, à se bonifier parfois aussi à s'abîmer. On parlait du soufre tout à l'heure, c'est aussi un élément qui concourt à la conservation du vin. Ça veut dire que des vins où il y a très peu de soufre dedans, parfois une bouteille sur deux ou sur trois ou sur dix ou sur vingt, elle est bonne. Michael.
J'irai pas jusque là quand même, mais par contre, là où c'est un peu plus compliqué, c'est... il faut avoir une cave parfaitement entretenue pour pouvoir avoir des vins sans soufre parce qu'ils sont un peu plus fragiles.
C'est quoi la condition d'une bonne cave?
C'est une température qui soit constante, autour de 12 degrés à peu près. Mais l'idéal, c'est d'avoir une cave chez soi, à l'intérieur. Mais bon, après ça, quand on habite à Marseille, c'est compliqué.
Quand on est dans un appartement, c'est pas simple.
C'est plus compliqué. Mais bon, l'idéal, c'est de peu de variations au niveau de la température, pas trop de bruit, l'ombre. Enfin, normalement, l'idéal est la bouteille, on doit la commander chez le vigneron, elle arrive dans la cave et on la sort le jour où on la déguste sur la table. Mais bon, après, ça, c'est la théorie. Hein.
Fred, je te voyais un peu sourire quand je disais tout à l'heure qu'un vin qui était très peu soufré, il risquait peut-être parfois d'avoir une bouteille de temps en temps pas bonne.
Comme il évoque, c'est la conservation. Après, les vins, ils vont pas bouger plus. Bien sûr, un vin naturel va avoir une évolution, donc sur une année qui va, bien sûr, le vin il va bouger, donc d'un mois sur l'autre on n'aura jamais le même vin, de toute façon d'un jour sur l'autre, d'une heure en heure normalement on n'a même pas le même vin. Par rapport à ces vins donc qu'on disait tout à l'heure, tous ces vins chimiques, eux par contre ils vont jamais bouger, pendant un an, deux ans on est tranquille, le vin il est stable, il est tellement il est surchargé de produits qu'il il va pas bouger. Un vin nature, et lui il évolue, il bouge. Après il y a de temps en temps, quand les vins des complets nature, s'ils ne sont pas terminés, il peut y avoir un risque, si ça prend des risques de chaleur au-dessus de 14 degrés, où il peut y avoir des redémarrages de fermentation parce qu'ils ont laissé quelques grammes de sucre dedans. Et puis du coup, comme il n'y a pas de produit qui bloque, les levures elles vont retravailler avec un coup de chaud. Enfin, ça, Antoine...
Oui, c'est vrai que ça peut arriver. Hein. On a souvent des vins qui peuvent, comme ils sont des vins vivants, ils évoluent, ils changent. Notre rôle, c'est d'essayer en tant que vigneron de... comme je vous disais, d'accompagner le plus possible le vin jusqu'à la mise en bouteille, parce qu'on n'a pas le droit de faire des mauvais vins. Donc il faut essayer que les vins soient le plus complexe, mais aussi le plus équilibré, le plus stable possible. Ça, c'est vraiment une des grandes exigences qu'on se doit d'avoir en tant que vigneron, par respect du consommateur et par respect de soi-même et du terroir et des gens qui étaient là sur ce terroir avant nous. Après, c'est vrai que je m'aperçois... dans les vins naturels qui ont des fois certains défauts, qui sont sans soufre, je m'aperçois que finalement je m'attache aussi à ces défauts. Et c'est ça qui plaît aussi, c'est que c'est pas des vins parfaits, c'est des vins qui ont des petits défauts. Effectivement, si on les met dans une école très classique d'œnologie, ils vont mettre une très mauvaise note, ou alors ils peuvent être carrément refusés aux AOC. Mais en soi, moi, je me suis fait des bons plaisirs avec des vins qui avaient des petits problèmes d'oxydation, de réduction, d'amertume, de, comme on dit, d'autolyse, de levure, des choses comme ça. Et dans ce défaut, il y a un plaisir. Et je reconnais que je m'attache à ça aussi.
Ces défauts, ils se traduisent comment au palais?
Bah, comme je vous disais, il peut y avoir...
Parce que l'autolyse, je n'ai pas le palais assez exercé pour discerner l'autolyse.
Je pense qu'on va demander à Guillaume, il donne des cours d'œnologie.
Oui, voilà.
Guillaume, l'autolyse. Alors, quel est l'effet concret de l'autolyse?
Non, mais...
Guillaume,
non,
mais
c'est parce que c'est... On peut le dire en antenne,
Fred,
hein? Bah, ça sent la merde un peu, quoi.
De quoi?
Ou la mare à canard.
La mare à canard.
Les crottes de... Non, mais on a... Effectivement, c'est un moment, comme les vins sont... ces vins-là ne sont pas filtrés, s'ils sont mis en bouteille à des moments où... parce que aussi, il faut faire attention, plus on touche à la nature et au vivant, plus il faut respecter peut-être des cycles lunaires, des choses comme ça. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il peut y avoir des vins qui sont mis en bouteille avec une grande quantité d'écorce de levure. Et ces levures-là, à un moment donné, elles se coupent, elles s'autolysent, et du coup, ça sent la décomposition. Ça sent la... Donc, c'est des phases aromatiques qui peuvent durer un mois, deux mois, trois mois.
Ça peut sentir le cadavre.
Voilà, c'est ça. Donc, après, il peut y avoir aussi des vins qui refont un petit perlant. Alors, un rouge qui est un peu perlant avec beaucoup de gaz carbonique. Dans la tête de la personne, je comprends le consommateur qui a l'habitude d'un rouge, c'est pas pétillant, c'est tranquille, il n'y a pas de gaz, il ne doit pas pétiller. Donc il trouve ça pas très bon. Et au mieux, il va dire c'est de la piquette, vu que ça pique. Mais en fait, il suffit de passer ça en carafe, un petit peu, et ça va faire sortir ce gaz carbonique. On attend un quart d'heure.
Je pense qu'il vaut mieux trouver du
génial.
Gaz sur une bouteille.
Oui.
Un gaz, c'est protecteur. Enfin, le gaz, il protège le vin en lui-même. Donc, il vaut mieux qu'il y ait...
un petit peu plus de gaz.
Un peu plus de gaz.
C'est pas très grave, donc, s'il y a un petit peu quelques bulles comme ça qui sortent du verre de vin rouge, Michael.
Non, mais bien sûr que non, puisque de toute façon, en 5 minutes, vous le carafez, vous attendez encore 5 minutes de plus et c'est bon. Et de toute façon, pour le consommateur, en tant que caviste, n'importe quel bon caviste ou restaurant, s'il y a un problème sur une bouteille, il la change. Et puis donc, voilà, il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque de la prise de la part du consommateur. Hein.
Est-ce que justement, dans ta cave, ça t'est arrivé? Oui. Éventuellement, sur des bouteilles peut-être un peu chic.
Chic, moi, j'ai Gramenon. Je travaille avec Gramenon. Et mes
Sierra très, très du belle
Sud,
maison.
Mes Sierra du Sud, j'ai eu deux bouteilles. Mais bon, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, après, ils me les changent. Hein,
moi aussi, ça m'est arrivé sur deux, récemment sur deux rosés. Des 2007. Mmh. Et il y avait une reprise de fermentation. Je pensais que c'était naturel. Donc le sommelier, je dis mais non, c'est normal. Parce que vous savez, dans les vins rouges, il y a 600 mg de CO2 par litre. 600 mg, c'est pas... Mais on ne le sent pas. Je crois que le seuil de perception, il doit être autour de 700.
1100.
1100 mg.
À 700, on ne le sent pas non plus.
Ensuite, on est sur les... Là, on a des chiffres très précis. Là. Après, dans les rosés, dans les blancs, on peut éventuellement rectifier un peu ce CO2. Ce CO2, il va conserver, comme disait Fred, ça conserve le vin. Il faut vinifier avec du CO2. Il faut beaucoup de CO2. Donc, s'il y en a un peu trop... Et en fait, c'était pas ça. C'était ce qui s'est passé. J'ai eu l'explication. Et les bouteilles ont été changées, bien entendu. C'était qu'il était resté 3 grammes de sucre. Parce qu'on a le droit, sur les rosés, à conserver un peu de sucre. Pour pouvoir avoir l'agrément. Donc je crois qu'il y avait 3 grammes de sucre sur ces bouteilles, et lors de la mise en bouteille, non, il y a une stérilisation des levures qui se font à la mise en bouteille, et si on a un incident sur la chaîne de mise en bouteille, on peut avoir des levures qui passent. Alors, levure plus sucre, bah, c'est la formule de la fermentation, et donc elles étaient reparties en fermentation. Voilà.
Mais c'était bon?
Et alors, non, moi je les aurais peut-être bu parce que ça me dérange peut-être pas, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de boire des vins dans des conditions.
Tu les as bien aimés.
Et c'est pas moi qui les ai bu, c'était des clients qui les ont retournés.
Ouais, d'accord. Voilà. Et toi, ton goût, tu les trouvais bonnes ou
alors,
pas?
Alors, moi, en effet, on m'a rendu les bouteilles 3 jours après. Ouais. Le vin était encore très bon. Par contre, en ouvrant le bouchon, ça a fait pouf, ça a pété comme une bouteille
champagne.
De champagne, mais le vin était très bon. D'autres auraient pu ne pas tenir.
Ils auraient peut-être dû l'enfermer avec plus que 3 grammes.
Ouais.
Ils seraient partis à 20, 24.
Oui, comme le rose de comme certaines
ils
bouteilles.
Auraient fait un sûr.
Alors, sur la question du gaz dans le vin, peut-être c'est l'occasion d'aborder la question de la macération. Il y a différents types, je crois, de macération. Peut-être là-dessus, Antoine, quelques éclaircissements.
Rapidement, c'est assez vaste. Donc, macération... ne sais pas exactement comment répondre à votre question, mais si on parle du rosé, il y a plusieurs façons de faire du rosé. Donc il y a le rosé pressurage direct, le rosé de saignée, et puis maintenant il y a le fameux rosé de coupage. Hein.
On va en parler tout à l'heure à propos d'Europe.
Voilà. D'ailleurs, à ce propos, j'ai inventé un slogan « Non à la coupe rosée ». Donc vous pouvez défiler dans la rue avec
rose,
ça.
La coupe rose, oui, mais pas la coupe rosée.
Voilà.
Bon, on en reparle en fin d'émission de l'Europe. Les macérations, la technique de macération.
Alors, si on veut faire un vin puissant, un Bandol concentré qui va tenir au moins 10 ans ou un peu plus, on peut faire des macérations assez longues, de 3 semaines, 4 semaines. Si on veut faire un vin plus léger, style vin de pays ou un vin sur le fruit, on va essayer déjà de ramasser les raisins un peu plus tôt et puis aussi faire peut-être une sorte de ce qu'on appelle macération pelliculaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément écraser les raisins. Vous savez, quand on voit les petits bonhommes en caleçon qui écrasent les raisins sur les cuves, voilà. Donc là, on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on laisse les raisins entiers dans la cuve, saturés en gaz carbonique, évidemment, sinon l'oxygène va abîmer les raisins et on aura un mauvais vin. Donc tout ça saturé en CO2. Et là, à l'intérieur du raisin, il y aura une fermentation qu'on appelle fermentation intracellulaire. Donc, donc ça va faire un vin léger, plus de soif, qui aura des arômes de fruits rouges, de sorbet, à boire frais. En ce moment, on a envie de boire ça. On a pas
c'est un peu les vins tendances, ça, ce que tu évoques à l'instant, les vins de nez, les vins de
bistrot,
soif.
Ouais, les vins de bistrot qu'on trouve beaucoup dans les nouveaux bars à vin, Paris, Marseille, un peu partout, ce qu'on a envie de boire.
On
les
dit vin de nez, vin de nier.
En tout cas, on a
Michael.
Ah non, bah, je sais pas. Bon, après, toute une question de plaisir. Après. Et de toute façon, c'est la personne qui a envie de boire. Si le client il a envie de boire un vin rouge léger et fruité, bah, il boit son vin rouge léger et fruité. Après, nous notre travail, restaurateur ou caviste ou même vigneron, c'est de faire plaisir à nos consommateurs. Si on sait qu'on a de la qualité, de toute façon, après, il choisit n'importe quel type de vin. Hein.
Sur cette question des macérations, alors on a vu, il y a une question de temps de macération. Il y a aussi, j'imagine, une question cruciale, c'est celle de la température.
Oui, et ça, c'est évidemment le grand progrès du XXe siècle dans notre milieu, le vin. C'est-à-dire qu'à partir du moment que les chais ont été équipés en froid, on a pu maîtriser les températures de fermentation et du coup, faire par exemple des fermentations par palier, 14 degrés, 17 degrés, 25 degrés. Ce qui nous permet à chaque palier de favoriser le développement d'une certaine souche de population de levure. Et donc, on n'aura pas toute. Et puis en plus, on va étirer la fermentation. Au lieu qu'elle dure 3 ou 4 jours ou une semaine, on peut peut-être la faire durer 10 jours. C'est comme un plat qui mijote, on aura plus de complexité. Voilà.
Peut-être sur ces techniques de vinification qui ont beaucoup évolué au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. En France, il y a quelques grands précurseurs. Je pense à Jules Chauvet, par exemple, ou à Marcel Lapierre. Jules Chauvet est décédé au début des années 80, si ma mémoire est bonne. Marcel Lapierre va très bien pour lui, merci. Est-ce que vous les reconnaissez tous autour de sa table comme des grands précurseurs, des gens qui ont vraiment fait quelque chose d'important et d'essentiel pour une nouvelle manière de percevoir le vin Guillaume, Fred... Guillaume.
Oui, il y a eu des avancées scientifiques fondamentales. Jules Chauvet a, si mes souvenirs sont bons, mais un autre nom aussi me vient à l'esprit. Dans les années 50, il a découvert la seconde fermentation, la fermentation malolactique. Alors, c'est vrai que
tu nous dis en deux mots.
Rapidement, c'est une deuxième fermentation qui va transformer un acide qui est dans le vin. Alors, ce qui est important dans le vin, c'est son acidité, puisqu'il a un pH autour de 3,2-3,3, qui est un peu masqué par la matière. Surtout sur les vins rouges, on ne perçoit pas vraiment l'acidité, plus sur les blancs et les rosés. Cette acidité, ça va faire un produit qui se rapproche du fruit. Alors, au départ, cette acidité, c'est de l'acide malique. C'est-à-dire, c'est le raisin et le seul fruit qui partagent avec la pomme et la poire cet acide, l'acide malique. Alors, dans notre inconscient, l'acide de la fraîcheur, la pomme, ça a aussi une symbolique. Et c'est vrai que nous, en tant que professionnels, quand on goûte un vin, retrouver de la fraîcheur, l'associer à cet acide, l'acide de la pomme, c'est intéressant. Hein, c'est croquer dans un fruit mûr. Nous, oui. On dit souvent, on croque, on a l'impression de croquer dans un fruit, pour certains types de vins. Alors cet acide malique, on a découvert dans les années 50 qu'il y avait des bactéries qui pouvaient transformer cette fraîcheur, je résume, hein, je schématise, qui pouvaient la transformer en acide lactique, c'est-à-dire l'acide du lait, qui est plutôt sur une connotation animale, plus, vous voyez, au niveau de la perception. Voilà. Donc les vins font naturellement ou pas naturellement cette deuxième fermentation. Et ça a été une avancée importante parce que maintenant les vignerons, enfin, normalement, maîtrisent le type de vin suivant les millésimes. Par exemple, un millésime très ensoleillé où l'acidité va avoir tendance à chuter, on a intérêt à ne pas lui faire faire sa transformation malolactique.
Je donne
un schéma, quoi.
Oui,
c'est, voilà. C'est une avancée technique.
Je suis pas d'accord avec toi, Guillaume, mais bon, c'est vrai qu'il y a une tendance vers ça.
Comment ça, t'es pas d'accord?
Mais non, parce que moi, je suis partisan de faire la malo, de faire cette fermentation pour aller jusqu'au bout du processus.
Oui, mais tout le monde ne la fait pas.
Et évidemment, le vin va être équilibré par la minéralité.
Voilà. Mais effectivement, un vin friand, un vin professionnel. Par exemple, sur les rouges, elle se fait automatiquement, la malo. Si on veut faire des rouges de garde,
forcément, on fait
la transformation malo.
Alors là, on est en train de partir dans quelque chose qui est très très technique, peut-être qui échappe un peu à la sagacité des auditeurs de Radio Grenouille. Bon, je vous rappelle que nous sommes en direct de Terroir 13. En tout cas, je constate avec cette amorce de discussion là, très technique là, que entre les diverses professions de la filière du vin, c'est-à-dire entre cavistes, sommeliers, producteurs, vignerons, distributeurs, il semble qu'il y ait pas mal d'échanges. C'est le cas?
Bien sûr.
C'est des professions qui se rencontrent, qui échangent entre elles.
Bien sûr, beaucoup d'échanges. Et également, et j'invite les auditeurs à se connecter sur le site tourouge.com, tourouge.com, parce qu'ils ont la possibilité de passer une journée ou une demi-journée maintenant au contact de ces vignerons dans leur chai, à leur poser directement la question dont on parle actuellement, parce que c'est clair que participer à un atelier comme celui-ci, c'est aborder ces questions des millésimes, des fermentations, des progrès et de la perception qu'on en a.
Et bien justement, on va parler dans un instant de l'approche du rapport au consommateur, de l'éducation du goût, de l'œnologie, de la dégustation. C'est tout ça dont on va parler dans cette troisième partie d'émission, juste après Pascal Comlade. Barman de Satan, c'était Pascal Comlade. On est en direct du salon Terroir 13 pour ce premier plateau de la thématique dévoration. Un plateau intitulé Vino Veritas, on y parle de la vérité du vin. On a parlé du terroir, on a parlé de la vinification. J'aimerais qu'on parle maintenant de l'approche du consommateur, comment découvrir les vins, comment faire découvrir le vin au consommateur. Guillaume Félissa, tout à l'heure, tu évoquais que tu organisais quelques ateliers d'œnologie. Ça se passe comment ?
Vas-y,
ça se passe dans les vignes, donc on accueille des groupes qui sont des groupes de 15 à 20 personnes, donc qui vont réserver des journées sur le site tourouge.com, et qui participe donc le matin à un atelier d'initiation à la dégustation, où on apprend les bases de la dégustation. Et ensuite, on rencontre un vigneron qui nous reçoit, dans lequel on fait l'atelier dans son domaine le matin. Ensuite, il y a un déjeuner et l'après-midi, une visite, une marche dans les vignes où on aborde l'actualité viticole. Voilà. Donc pour cela, on a plusieurs terroirs. On propose de très beaux terroirs. On est sur Belley, à Nice, dans des domaines extraordinaires. On est à Palette aussi, également, sur deux domaines, à Palette et à Bandol, sur de nombreux domaines qui nous accueillent avec des vignerons passionnés qui accueillent des groupes, bien entendu. Parce que, bien entendu, on peut toujours s'arrêter dans une cave et rencontrer un vigneron. Mais là, ce sont des journées qui sont organisées, qui sont encadrées, où on apprend réellement à déguster et à comprendre ce qu'est le vin.
D'accord. Le vin, c'est quelque chose qu'on apprend à découvrir, dont on apprend aussi à mémoriser les caractéristiques, les sensations qu'il nous provoque en bouche, dans le nez ou ailleurs, si affinité. C'est à la fois quelque chose qui semble extrêmement complexe. L'œnologie, ça sonne comme une science. Et en même temps, c'est quelque chose qui est pétri de savoir populaire. Alors, je me tourne vers le sommelier, Michael. Peut-être, toi, j'imagine, t'as fait des études, t'as dû boire et goûter des centaines, voire des milliers de vins différents. Comment est-ce que tu les gardes en mémoire ?
Moi, je retiens que ce que j'aime, en fait. Donc déjà, c'est plus facile. Mais après, la mémoire, c'est du travail, c'est tout. Il y a pas de... Il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres. Mais après, c'est pas un exploit de reconnaître un vin. Enfin bon, déjà, 50%, c'est des connaissances.
Donc la frime de mettre une carafe et de dire ça, qu'est-ce que c'est quel millésime.
Ça, c'est intéressant quand même.
C'est de la frime, quoi.
Non, c'est pas de la frime, parce que c'est un vin doit se goûter à l'aveugle. Pour le plaisir, c'est un jeu, on s'amuse, voilà. Après, il y a toujours des pièges, mais c'est pas si difficile que ça à trouver. Mais on ne reconnaît que ce qu'on a déjà goûté, de toute façon.
Donc pour toi, l'œnologie, finalement, c'est pas si complexe que ça. En même temps, c'est ton savoir-faire. C'est ce que tu vends comme professionnel.
Je parle pas de moi, mais en règle générale, quoi. Mais vous savez, il y a déjà les meilleurs dégustateurs, c'est pas forcément les sommeliers. Moi, j'ai des clients qui sont des super dégustateurs, voilà. Mais voilà, ils goûtent beaucoup. C'est plus facile de goûter des grands vins quand on a un pouvoir financier pour après reconnaître les autres aussi, quoi. Donc après, il y a quelques personnes qui ont un grand talent, mais sinon, c'est en apprenant. On apprend, on goûte, et puis après, on reconnaît assez facilement, quoi. Mais il y a toujours des pièges. Hein.
Alors peut-être une autre approche, celle d'un caviste, justement. Fred, comment tu réponds, toi, à tes clients, aux gens qui rentrent dans ton établissement et qui disent, voilà, moi j'aimerais goûter des trucs, mais je ne sais pas bien quoi. Alors comment est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu essaies de dégrossir leur goût, de leur proposer des choses?
On essaie de dégrossir un peu les goûts. Moi, ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Plus à évoquer des gens comme Pierre Auvernois qui dit, voilà, un vin, si vous commencez à faire la grimace, c'est qu'il y a un souci dessus, quoi. Voilà. Un vin, ça doit être fluide, ça doit être plaisant. Aussi bien, même tant bien même, il a des matières, quoi. Ça n'empêche pas un vin d'avoir des grosses structures. Un vin, quoi qu'il arrive, ça doit être plaisant. Alors après, nous, en tant que cavistes, sur l'approche avec les clients, ça va être souvent autour des repas. Voilà, c'est savoir l'utilisation de la bouteille, à quel moment ça va être bu. Si ça va être bu le matin à 9h, à 10h, à l'apéro.
À 8h au petit-déj, avec les tartines dedans.
À 16h, on n'en sait rien. Il y a des vins pour tous les moments, pour toutes les heures. Il y a des vins pour les repas. Et donc, quand on commence à toucher à la cuisine, alors là, on va commencer à avoir vraiment un panel qui va vraiment s'ouvrir, puisque là, la cuisine, ça s'arrête jamais. En plus, avec tout ce qui est nouvelles saveurs, surtout là avec ce qu'on trouve maintenant, la cuisine, voilà, on va pouvoir associer des vins tout plat à un vin. C'est très dur de ne pas avoir d'association, en tout cas de ne pas trouver d'association.
On va demander à Michael Zortian, justement, pour associer un vin à un plat, il faut commencer par le plat et choisir le vin, ou commencer par le vin et choisir le plat?
Après, ça dépend, parce que c'est surtout le goût du client, quoi. Enfin, il faut déjà parler avec la personne et savoir quel type de vin elle aime. Et après, en fonction du type de vin qu'elle a envie de boire déjà, et du type de vin qu'elle va déguster, de trouver des plats. Nous, on fonctionne comme ça d'abord. On choisit d'abord plutôt le vin, mais on s'adapte aux gens. Il y a des gens qui viennent au restaurant pour manger et ils s'intéressent pas du tout au vin. D'autres qui viennent pour goûter. Donc après, c'est vraiment en parlant avec les personnes, en 5-10 minutes, qu'on essaie de trouver une alliance qui va être intéressante, parce qu'il y en a qui ne cherchent même pas l'alliance, hein, de toute façon, hein, qui veulent du plaisir et qui ne veulent pas d'alliance.
Alors, comment ça se passe concrètement dans un restaurant ? C'est-à-dire que j'imagine que tu dialogues avec le chef, lui prépare un plat, tu as, toi, une idée d'un vin qui correspond à ça, donc il y a une espèce de recommandation, on va dire, de base, d'une alliance proposée entre un plat, le plat du chef, et puis la bouteille que tu proposes pour l'accompagner. Et éventuellement, le client, lui, peut proposer sa propre option.
C'est lui qui choisit, de toute façon. Hein. On est là pour lui faire plaisir. Hein. C'est pas nous de lui dire, ça va bien. Parce que nous, moi, ce que je veux, c'est en partant qu'ils disent, j'ai passé un bon moment, c'était très bon. C'est son plaisir. Alors, il y a 5-6% des personnes qui vont venir où là, on va vraiment faire des alliances assez pointues. D'ailleurs, on travaille une quinzaine de vins ouverts tout le temps parce que c'est quand même plus simple par rapport à la cuisine de Jérôme. Et on a après des bouteilles, mais...
Et si quelqu'un arrive, par exemple, avec l'idée de dire « je voudrais un Côte-du-Rhône pour accompagner une sole meunière », qu'est-ce que tu lui réponds ?
Je lui réponds que c'est
si ça lui
envie.
Plaît, tant
après,
mieux.
Après, si vous faites une sole meunière avec une sauce au vin rouge, ce qui est important, c'est pas dans une alliance mésémaine, déjà, ce qui est important, c'est l'accompagnement. Voilà, vous faites des rougets, vous faites des rougets de sauce au vin rouge, ça ira plus avec un vin rouge, quoi, mais en gros. Mais c'est compliqué dans les restaurants, surtout dans les gastros, de faire... Parce que si vous avez deux personnes qui veulent une bouteille de vin et que vous avez cinq plats, vous ne pouvez pas trouver d'alliance, c'est pas possible. Vous allez favoriser un ou deux plats par rapport aux autres.
Et ça, cette alliance entre le vin et le plat, c'est quelque chose qui est très personnel. C'est-à-dire, c'est vraiment la marque de ta personnalité de sommelier, où il y a des grandes règles un peu intangibles qu'on ne peut pas franchir.
Il n'y a pas de règles. Il y aurait des évidences. Si vous faites un plat qui demande de l'acidité, il faut plutôt un blanc qui va être assez droit, assez minéral. Si vous parlez de la... Voilà, après, une mets délicate, une viande délicate, ne va pas fonctionner avec un vin rouge très puissant. Mais bon, après, ce qui est intéressant, c'est de travailler avec des chefs comme Lionel Lévy ou comme Rimbaud à l'Oasis ou Jérôme, où vous avez des alliances super originales. Par exemple, nous, à l'Oasis, on travaillait... Je faisais un Thévenet, c'était un vin blanc à surmaturité, mais sans sucre, avec de l'agneau. Voilà, là, c'est intéressant. Parce que si c'est pour faire de l'agneau avec un Chardonnay du Pape, tout le monde le fait, quoi.
Le choix, au fond, c'est une politique. Hein, et justement, on est à quelques heures d'une consultation électorale, consultation pour l'Europe. Alors, je voudrais juste, pour conclure cette émission, on l'a évoqué en tout début d'émission, qu'on parle du contexte européen. Ça n'est pas un terroir, l'Europe, mais c'est quand même un contexte politique et réglementaire notamment important. Une polémique a fait rage ces derniers mois autour du rosé. Je voudrais peut-être vous proposer, là, pour conclure cette émission, en quelques mots, de tordre le cou à cette idée du rosé mélange de rouge et de blanc. Peut-être Antoine ?
Ouais, juste deux mots pour dire qu'effectivement, on peut sans doute faire un bon produit en mélangeant du blanc avec du rouge, mais on n'aura pas tout à fait ce sera autre chose, ce sera différent.
Voilà. C'est un cocktail, mais c'est pas un
cocktail. Donc il faudrait peut-être, évidemment, inventer peut-être un nouveau nom ou quelque chose comme ça pour défendre et pour faire bien la différence entre ces vins-là et puis le vrai vin de rosé de pressurage direct, issu d'une tradition, d'une culture, d'un savoir et d'un terroir.
Autour de cette table, sur cette réglementation européenne, sur ces contraintes...
Je suis contre, pour les vignerons qui travaillent et qui se lèvent le matin, qui vont faire des choses. Alors on peut faire bon, hein, c'est sûr, on peut mélanger du blanc et du rosé. Mais après, dans l'absolu, à mon avis, ce ne sera pas comme ça que ça va marcher. Mais bon, après...
Non, dans l'absolu, ça ne va pas marcher comme ça de toute façon. Enfin, le souci, c'est bien de ce côté, de garder cette identité. Voilà, il y a une tradition, il faut garder ça. Après, comme il l'a dit Antoine, on peut mélanger des jus. Là, le souci, ce qu'il faut balancer sur la robe, c'est à qui ça va profiter. On va faire quoi avec ? On va faire des petits jus, et ça va être le négoce qui va acheter ça. Ils vont tuer les vignerons qui bossent, et donc ils vont acheter des raisins qui vont être encore moins chers. Et voilà, et donc après, les mecs, ils vont disparaître. Et ça favorise aussi les mecs qui vont bosser dans les vignes, à ne plus bosser. Donc pour ne plus bosser, on traite. On met des produits chimiques, on les surcharge, ça évite d'aller faire des labours, les bourgeonnages, tous les travaux de vigne, réellement. Voilà.
Mauvaise limonade, on arrive dans quelques secondes au terme de cette émission. Je vous propose un très rapide tour de table pour que vous évoquiez votre actualité, si vous en avez, dans ces prochains jours. Peut-être un atelier d'œnologie à venir,
oui,
Guillaume, très vite.
Rapidement, je crois que c'est un lundi 29 juin. Donc un rendez-vous au restaurant Le Charles Livon avec un vigneron qui s'appelle Jean-Luc Poinceau, qui fait des cuvées remarquables de Bandol, de Cassis et de Côte-de-Provence. Et on découvrira autour d'un menu gastronomique toute sa gamme. Voilà, Le Charles Livon le 29 juin à 20h. Et toutrouge.com, le site où vous trouvez toutes les informations.
Au 29, Michael.
Au 29, normal, on voit ça tous les jours. Midi soir, j'embrasse ma copine. Voilà. Bisous.
Fred part en vacances, donc...
Les buvards sont ouverts quand même, tous les jours.
Les buvards sont ouverts, tu rappelles où c'est ?
Voilà, 34 Grand Rue, donc à peu près derrière la mairie. Sinon, vous pourrez me retrouver, je fais des ateliers aux nonotes pour le grand fooding qui va se passer le 21 juin à la Friche de la Belle de Mai.
Antoine Poupenot.
Et moi, demain, vous pouvez me retrouver chez l'excellente caviste Plus Belle la Vigne, Cours Julien. Et on aura, là, il y aura plein de vignerons bio, voilà, et en biodynamie et naturelle. Donc d'Ardèche, de Rhône du Sud, de Provence, du Languedoc et des Corbières. On sera 8 vignerons. Voilà.
Merci à tous sur ce plateau. Antoine Poupenot, Michael Zortian, Guillaume Félissa, Fred.
Merci.
Et restez à l'antenne. Juste un mot pour conclure. Les prochains rendez-vous, prochain plateau, ce sera demain samedi 6 juin à 11h. La Camargue réinventée, un plateau animé par Marc Voiry. Et puis à 15h, toujours demain, grand entretien mené par Cécile Caud de la revue Omnivore. On y rencontrera Rennes Samu. Tout le programme de la thématique dévoration est bien entendu sur le site de Grenouille, www.grenouille888.org. À la technique, c'était Tony Regnault. Et tout de suite, dans quelques secondes, Dr Zoom nous a préparé un mix spécial Watermelon.
Oh, qu'il est mignon, qu'il est mignon. Qu'est-ce que c'est ?
Dévoration.